Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. Premier appendice de 2. Le capitaine Dreyfus. À la prison du Cherche-Midi. Historique de la détention. Le 14 octobre 1894, je recevais un pli secret du ministre de la Guerre. Son contenu me faisait connaître que le lendemain, 15, se présenterait, à 7 heures du matin, à la prison, un officier supérieur de l'armée chargé de me faire une communication confidentielle. Le 15 au matin, M. le lieutenant-colonel d'Abbeville, en tenue de service, se présentait et me remettait un pli, daté du 14, qui m'informait que le capitaine Dreyfus, du 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, serait écroué dans la matinée comme prévenu du crime de haute trahison et que j'étais rendu personnellement responsable de sa personne. Le colonel d'Abbeville me demanda ma parole d'honneur d'avoir à exécuter à la lettre les injonctions ministérielles qu'il allait me communiquer, tant par écrit que verbalement. Une de ces communications m'ordonnait de mettre le prisonnier au secret le plus absolu et de veiller à ce qu'il n'eût par devers lui ni couteau, ni papier, ni plume, ni encre, ni crayon. Il devait également vivre à l'ordinaire des condamnés. Mais cette mesure fut annulée sur une observation que je fis comme étant irrégulière. Le colonel m'ordonna de prendre, sans me les indiquer, les précautions que je jugerais nécessaires pour que l'incarcération demeurât ignorée au-dedans et au-dehors de la prison. Il demanda à visiter les locaux affectés aux officiers et il désigna celui que devait occuper le capitaine Dreyfus. Il me mit en garde contre les démarches probables que tenterait la haute juiverie, entre guillemets, dès qu'elle connaîtrait l'incarcération. Je ne vis personne et aucune démarche ne fut faite près de moi. Pour ne pas y revenir, j'ajoute que, durant toute la détention du prisonnier, je ne suis jamais entré et je n'ai jamais séjourné dans sa cellule sans y avoir été accompagné par l'agent principal qui seul possédait la clé de cette chambre cellulaire. Vers midi, le capitaine Dreyfus, en tenue civile, arriva en fiacre, accompagné de M. le commandant Henri et d'un agent de la Sûreté. Cet officier supérieur me remit l'ordre d'écrou, qui était signé du ministre lui-même et portait la date du 14, ce qui prouve que l'arrestation était prononcée avant qu'on eût vu et questionné le capitaine. C'est dire aussi que l'incarcération fut faite à l'insu du gouverneur de Paris, qui en fut avisé par un officier supérieur de l'état-major du ministre, envoyé à cet effet, puisque j'avais reçu la défense de le faire moi-même. L'agent principal de la prison, auquel j'avais donné mes instructions, après avoir fait inscrire sur le registre d'écrou le nom de Dreyfus, sans aucune autre indication pouvant indiquer qui il était, conduisit le capitaine dans la chambre qui lui était assignée. À partir de ce moment, Dreyfus fut muré vivant dans sa chambre. Nul ne pouvait voir le prisonnier, dont la porte, pendant tout le temps de sa présence au Cherche-Midi, ne devait s'ouvrir qu'en ma présence. Peu d'instants après, je me rendis près du capitaine Dreyfus. Il était dans un état de surexcitation impossible. J'avais devant moi un véritable aliéné, aux yeux injectés de sang ayant tout bouleversé dans sa chambre. Je parvins, non sans peine, à le calmer. J'eus l'intuition que cet officier était innocent. Il me supplia de lui donner les moyens d'écrire ou de le faire moi-même pour demander au ministre de la guerre à être entendu par lui ou par un des officiers généraux du ministère. Il me raconta les phases de son arrestation qui ne furent ni dignes ni militaires. Du 18 au 24 octobre, le commandant du Paty de Clan, qui avait procédé à l'arrestation de Dreyfus au ministère de la guerre, vint, muni d'une autorisation particulière du ministre de la guerre, pour l'interroger. Avant de voir Dreyfus, il me demanda s'il ne pouvait pas pénétrer sans bruit dans sa cellule, porteur d'une lampe assez puissante, pour pouvoir projeter un flot de lumière au visage du capitaine, qu'il voulait surprendre de façon à le démonter. Je répondis que ce n'était pas possible. Il lui fit subir deux interrogatoires et lui dicta, chaque fois, des fractions de phrases puisées dans le document incriminé, dans le but d'établir la comparaison entre les écritures. Pendant cette période de temps, la surexcitation du capitaine Dreyfus était toujours très grande. Du corridor, on l'entendait gémir, crier, parlant à haute voix, protestant de son innocence. Il se butait contre les meubles, contre les murs, et il paraissait inconscient des meurtrissures qu'il se faisait. Il n'eut pas un instant de repos. Et lorsque, terrassé par les souffrances, la fatigue, il se jetait tout habillé sur le lit, son sommeil était hanté par d'horribles cauchemars. Il avait des soubresauts, tels qu'il lui est arrivé de tomber du lit. Pendant ces 9 jours d'une véritable agonie, il ne prit que du bouillon et du vin sucré, ne touchant à aucun aliment. Le 24, au matin, son état mental, voisin de la folie, me parut tellement grave que, soucieux de mettre ma responsabilité à couvert, j'en rendis compte directement au ministre ainsi qu'au gouverneur de Paris. Dans l'après-midi, je me rendis, sur convocation, près du général de Boisdeffre, que je suivis chez le ministre de la guerre. Le général m'ayant demandé mon opinion, je répondis sans hésitation. « On fait fausse route. Cet officier n'est pas coupable. » C'était ma conviction, et elle n'a fait que se confirmer. Entré seul dans le cabinet du ministre, le général en ressortait quelques instants après, paraissant fort ennuyé, pour me dire « Le ministre part pour aller assister au mariage de sa nièce et me laisse carte blanche. Tâchez de me conduire Dreyfus jusqu'à son retour. Il s'en arrangera ensuite. » Je fus porté à penser que le général de Boisdeffre était resté étranger à l'arrestation ou qu'il ne l'approuvait pas. Néanmoins, le général m'ordonna de faire visiter secrètement le capitaine par le médecin de l'établissement, qui prescrivit des potions calmantes et une surveillance incessante. À partir du 27, le commandant du Paty de Clam vint presque journellement lui faire subir de nouveaux interrogatoires et épreuves d'écriture qui n'avaient d'autre but, chaque fois, que d'obtenir un aveu contre lequel Dreyfus ne cessait de protester. Jusqu'au jour où ce malheureux fut livré au magistrat rapporteur du Conseil de guerre, il se savait accusé du crime de haute trahison, sans toutefois en connaître la nature. L'instruction fut longue, minutieuse, et pendant qu'elle se poursuivait, Dreyfus croyait si peu à sa mise en jugement et moins encore à sa condamnation, qu'il dit plusieurs fois « Quelle compensation vais-je demander? Je solliciterai la croix et je donnerai ma démission. » C'est ce que j'ai dit au commandant du Paty, qui l'a relaté dans son rapport au ministre. Il n'a pu relever aucune preuve contre moi, car il ne peut y en avoir, pas plus que le rapporteur qui, dans le sien, ne procède que par induction, supposition, sans rien préciser, ni rien affirmer. Quelques instants avant de comparaître devant ses juges, il disait « J'espère bien que mon martyre va prendre fin et que je serai bientôt dans les bras des miens. » Malheureusement, il devait en être autrement. Après le verdict, Dreyfus fut ramené vers minuit dans sa chambre où je l'attendais. À ma vue, il s'écria « Mon seul crime est d'être né juif. Voilà où m'a conduit une vie de travail, de labeur. Pourquoi, mon Dieu, suis-je entré à l'école de guerre? Pourquoi n'ai-je pas donné ma démission, tant désirée par les miens? » Son désespoir était tel que, craignant un dénouement fatal, je dus redoubler et faire redoubler de vigilance. Le lendemain, son défenseur vint le voir. Maître Demange, en entrant dans la chambre, lui ouvrit les bras et, tout en larmes, le pressant sur sa poitrine, lui dit « Mon enfant, votre condamnation est la plus grande infamie du siècle. » J'en fus bouleversé. À partir de ce jour, Dreyfus, qui était resté sans nouvelles des siens, fut autorisé pour la première fois à correspondre avec sa famille, mais sous le contrôle du commissaire du gouvernement, auquel on remettait toutes les lettres expédiées ou reçues. J'ai assisté aux deux seules entrevues autorisées qu'il a eues avec sa femme et à celle qu'il eut avec sa belle-mère. Elles furent émouvantes. Dès que le pourvoi fut connu, le commandant du Paty vint encore avec une autorisation spéciale du ministre ordonnant de le laisser communiquer librement avec Dreyfus. Après s'être enquis de l'état d'âme du condamné, il se rendit près de lui, tout en enjoignant à l'agent principal de demeurer à portée de son premier appel, si besoin était. Dans cette dernière entrevue, il ressort d'une lettre écrite immédiatement par Dreyfus au ministre de la guerre que le commandant du Paty s'efforça d'obtenir un aveu de culpabilité ou, tout au moins, celui d'un « acte imprudent d'amorçage », entre guillemets. Dreyfus répondit qu'il n'avait jamais amorcé personne, qu'il était innocent. Le 4 janvier 1895, j'étais déchargé de la lourde responsabilité qui m'incombait. Après avoir serré la main au capitaine Dreyfus, je le remettais aux gendarmes qui le conduisirent, menottes au poing, à l'école militaire où il subit, en criant son innocence, la dégradation, supplice plus terrible que la mort, puis l'exil. J'ai eu à remplir une mission extrêmement pénible et triste, ayant vécu, pour ainsi dire, près de 3 mois de l'existence de ce malheureux. Puisque j'avais reçu l'ordre formel d'assister à tous ses repas, que je devais étroitement surveiller, afin qu'aucun écrit du dehors ne pût lui parvenir dissimulé dans les aliments. Depuis de si longues années que, par un choix qui m'a honoré, et quoique déjà retraité, je suis resté à la tête de divers établissements pénitentiaires, j'ai acquis une grande expérience des prisonniers, et je ne crains pas de dire et de déclarer hautement qu'une erreur terrible a été commise. Aussi n'ai-je jamais considéré le capitaine Dreyfus comme un traître à sa patrie, à son uniforme. Dès les premiers jours, mes chefs directs et autres connurent mon opinion. Je l'ai affirmé en présence de hauts fonctionnaires et personnages politiques, ainsi qu'à de nombreux officiers de tous grades, journalistes et hommes de lettres. Je dirais mieux, le gouvernement connaissait également mon opinion, car la veille de la dégradation, un chef de bureau du ministère de l'Intérieur vint de la part de son ministre, M. Dupuis, me demander quelques renseignements sur Dreyfus. je lui répondis dans le même sens. Ce fonctionnaire n'a pas été sans le répéter à ses chefs. Or, je déclare que jusqu'au 5 novembre dernier, je n'avais jamais reçu d'aucun de mes chefs ni la moindre observation, ni l'ordre d'avoir à me taire, et que j'ai toujours continué à proclamer l'innocence de Dreyfus, qui est la victime d'une de ces fatalités du sort qui sont inexplicables et impénétrables, ou d'une machination insondable, ourdie à dessein. Je dirais aussi que si Dreyfus ne s'est pas tué, ce n'est point par lâcheté, mais bien parce qu'il a été mis dans l'impossibilité absolue de le faire, qu'il a cédé à mes exhortations et aux supplications des siens éplorés. J'affirme également, la question m'ayant été posée, n'avoir connu M. Bernard Lazare que l'avant-veille de l'apparition de sa première brochure ayant pour titre « Une erreur judiciaire ». La vérité sur le capitaine Dreyfus, brochure que j'ai ignorée, soit directement, soit indirectement. Si je l'ai accompagné l'an dernier au logis personnel de M. Henri Rochefort et non à la direction de son journal, j'ai obéi à un sentiment naturel que tout homme de cœur comprendra, celui de témoigner en faveur d'un innocent injustement frappé et qui expie un crime qu'il n'a pas commis. Toutes les convictions sont respectables quand elles sont sincères et désintéressées, et on admettra bien que s'il y a des gens convaincus de la culpabilité, il y en a aussi, je puis l'affirmer, un très grand nombre dans les hautes sphères civiles et militaires qui sont, comme moi et autant que moi, convaincu de l'innocence de Dreyfus. Mais la lâcheté humaine les a empêchés de le dire hautement et publiquement. Je n'ai pas voulu être du nombre. Un haut personnage politique qui fait encore partie du Parlement et que je ne puis nommer a dit « Le procès Dreyfus est un procès antisémite qui s'est greffé d'un crime politique. » Je suis de cet avis. Dieu veuille que ce malheureux, qui expire, qui agonise sur un rocher, soit réhabilité un jour pour l'honneur des siens, de ses enfants, et aussi pour l'armée. Signé Forzinetti, chef de bataillon en retraite, ancien commandant des prisons militaires de Paris. Deuxième appendice. Une calomnie. Les prétendus aveux du capitaine Dreyfus. Première lettre. Madame Dreyfus à Monsieur G. Cavaignac. Monsieur le député, dans la séance du 13 janvier 1898, vous avez affirmé qu'un officier, le capitaine Lebrun Renaud, aurait recueilli de la bouche de mon mari, le jour de son horrible supplice, cette parole. « Si j'ai livré des documents sans importance à une puissance étrangère, c'était dans l'espoir de m'en procurer d'autres. » J'oppose à cette affirmation un démenti catégorique absolu. Si, au lendemain du jour où, subissant héroïquement son supplice, mon mari n'a pas cessé de protester hautement de son innocence, un journal a publié le récit dont, sans contrôle et sans preuve, vous vous êtes fait l'écho à la tribune du Parlement. Ce journal a altéré la vérité. Il m'a été dit que le capitaine Lebrun Renaud avait aussitôt démenti les propos qu'une légende lui attribue, qu'il avait dit à ses chefs la vérité, à savoir que mon mari n'avait fait que protester de son innocence, que, par ordre, alors, le silence avait été imposé à cet officier. J'ignore si ce qui m'a été raconté est exact, je ne puis le vérifier, Si vous voulez vous donner la peine de vous reporter aux journaux de janvier 1895, vous y trouverez d'abord un récit de tout point différent de la conversation qui s'engagea le 5 janvier entre le capitaine Lebrun Renault et mon mari. Voici le récit du Figaro, intitulé « Récit d'un témoin » et signé de M. Eugène Clisson. C'est dans cet ordre que le convoi arriva à l'école militaire à 8h-10. Dreyfus fut conduit dans une des salles de l'école et laissé sous la garde du capitaine Lebrun Renault. C'est là, dans cette pièce, que la conversation suivante s'engagea. « Vous n'avez pas songé au suicide, monsieur Dreyfus ?» demanda le capitaine Lebrun Renault. « Si, mon capitaine, répondit Dreyfus, mais seulement le jour de ma condamnation. Plus tard, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'innocent comme je suis, je n'avais pas le droit de me tuer. On verra dans 3 ans, quand justice me sera rendue. » Alors, vous êtes innocent. Voyons, mon capitaine, écoutez, on trouve dans un chiffonnier d'une ambassade un papier annonçant l'envoi de 4 pièces. On soumet le papier à des experts, 3 reconnaissent mon écriture, 2 déclarent que l'écriture n'est pas de ma main, et c'est là-dessus qu'on me condamne. À 18 ans, j'entrais à l'école polytechnique. J'avais devant moi un magnifique avenir militaire. 300 000 francs de fortune et la certitude d'avoir dans l'avenir 50 000 francs de rente. Je n'ai jamais été un coureur de filles. Je n'ai jamais touché une carte de ma vie, donc je n'ai pas besoin d'argent. Pourquoi aurais-je trahi? Pour de l'argent? Non, alors quoi?
Et qu'est-ce que c'était que ces pièces dont on annonçait l'envoi?
Une très confidentielle et 3 autres, moins importante.
Comment le savez-vous?
Parce qu'on me l'a dit au procès. Ah, ce procès à huis clos, comme j'aurais voulu qu'il fût public et qu'il eût lieu au grand jour, il y aurait eu certainement un revirement d'opinion.
Lisiez-vous les journaux en prison?
Non, aucun. On m'a bien dit que la presse s'occupait beaucoup de moi et que certains journaux profitaient de cette accusation ridicule pour se livrer à une campagne antisémite. Je n'ai rien voulu lire.
Puis, raide et comme insensible, il ajoute
« À présent, c'est fini. On va m'expédier à la presqu'île Ducos. Dans 3 mois, ma femme viendra m'y rejoindre. »
Et, reprit le capitaine Lebrun Renault, « avez-vous l'intention de prendre la parole tout à l'heure? »
Oui, je veux protester publiquement de mon innocence. »
Devant cette déclaration nettement formulée, le capitaine fit informer le général Dara de la résolution de Dreyfus. Elle avait d'ailleurs été prévue, et un roulement de tambour devait lui couper la parole en cas de besoin. Il était 9h-10 lorsque 4 artilleurs entrèrent dans la salle.
« Voici les hommes qui viennent vous prendre, monsieur, » dit le capitaine Lebrun Renault.
« Bien, mon capitaine, je l'y suis, mais je vous le répète, les yeux dans les yeux, je suis innocent. »
Et il suivit les soldats. Le lendemain, l'agence Havas communiqua aux journaux la note suivante, qui établit seulement que le capitaine Lebrun Renault n'avait fait lui-même aucune communication à la presse.
Le ministre de la Guerre a interrogé le capitaine de la garde républicaine, Lebrun Renault, sur les affirmations qui lui sont attribuées par certains journaux relativement à une conversation avec l'ex-capitaine Dreyfus. Le capitaine Lebrun Renault a certifié au ministre qu'il n'a fait aucune communication à aucun organe ni représentant de la presse.
Le Figaro reproduit cette note en la faisant suivre des lignes suivantes.
C'est absolument exact et le capitaine Lebrun Renault a dit la vérité en affirmant à son ministre qu'il n'avait fait aucune communication à aucun organe ni représentant de la presse. Ce qui est vrai
c'est qu'il y a eu seulement une conversation tenue par ce brave officier de la meilleure foi du monde devant des personnes qu'il ne soupçonnait pas devoir la rapporter. Nous ne croyons pas d'ailleurs que les règlements interdisent à un militaire d'avoir des conversations de ce genre avec sa famille ou ses amis. Ce n'est que dans la cocarde du 8 janvier que parut, sous la signature de M. Castelin Junior, le propos que vous avez reproduit, mais que le journal attribuait à un autre officier que le capitaine Lebrun Renault. Aussi bien, l'invraisemblable du récit que vous avez produit à la tribune de la Chambre ne ressort-elle pas avec une souveraine évidence d'une pièce incontestable, celle-là, qui figure au dossier de mon mari et que vous ne pouvez ignorer, dont vous avez dû prendre connaissance pendant votre passage au ministère de la guerre. Le jour même du rejet de son pourvoi, alors que tout espoir était perdu pour lui, à la veille d'un supplice atroce entre tous, mon mari reçut dans sa prison la visite du commandant du Paty de Clan, que vous connaissez bien, monsieur le député, qui avait dirigé l'enquête préliminaire à l'arrestation et qui venait au nom du ministre de la guerre demander au capitaine Dreyfus s'il voulait reconnaître sa culpabilité. Mon mari répondit « Je suis innocent, je n'ai rien à avouer ». « N'auriez-vous pas commis une imprudence ?» dit M. Dupaty. « N'auriez-vous pas voulu amorcer un agent étranger ?»«
Je ne connais aucun agent. Je n'ai jamais eu de telles relations !» répliqua le capitaine Dreyfus. « Je n'ai jamais voulu amorcer personne. Je suis innocent de ce dont on m'accuse. »
« Alors, déclara celui qui a été son bourreau, « l'homme qui m'a torturé, moi, malheureuse femme, avec des raffinements de sauvage, alors, si vous dites vrai, vous êtes le plus grand martyr du siècle. »
Monsieur Dupaty de Clan peut nier cette conversation, mais voici une lettre qui en fait foi, qui a été écrite après que l'envoyé du général Mercier eut quitté la prison du Cherche-Midi, qui fut remise au ministre,
qui figure au dossier du ministère de la guerre,
que, je le répète, vous deviez connaître et qui aurait dû vous empêcher de porter à la tribune de la Chambre l'assertion que vous y avez portée. Mon mari écrivait au général Mercier.
« Monsieur le ministre, j'ai reçu par votre ordre la visite du commandant du Paty de Clan, auquel j'ai déclaré encore que j'étais innocent et que je n'avais même jamais commis la moindre imprudence. Je suis condamné, je n'ai aucune grâce à demander, mais au nom de mon honneur, qui, je l'espère, me sera rendu un jour, j'ai le devoir de vous prier de vouloir bien continuer vos recherches. Mon parti, qu'on cherche toujours, c'est la seule grâce que je sollicite. » Signé Alfred Dreyfus.
Et c'est le lendemain du jour où il écrivait cette lettre que mon mari aurait fait l'aveu que vous avez présenté à la Chambre comme la preuve de la culpabilité d'un martyr, d'un innocent. La démarche de M. Dupaty de Clan prouve que jusqu'à la fin, le général Mercier a eu des doutes sur la culpabilité de l'homme qu'il n'avait pu faire condamner qu'en violant la loi et qu'en trompant les officiers du Conseil de guerre. La lettre authentique de mon mari dément le propos qui lui a été prêté. Je vous prie d'agréer, monsieur le député, l'assurance de mes sentiments distingués. Signé Lucie Dreyfus.
Paris, 14 janvier 1898.
Deuxième lettre du deuxième appendice intitulée « Une calomnie ». Encore une fois, il s'agit d'une lettre écrite par Mme Dreyfus à M. G. Cavaignac. Le 16 janvier 1898. Monsieur le député,
Vous me dites qu'un témoignage écrit des déclarations du capitaine Lebrun-Renault existe entre les mains de M. le ministre de la Guerre. Je dois à mon mari, à mes enfants, à la vérité de dissiper l'équivoque de votre réponse. Ce témoignage écrit, qui a été si subitement révélé par vous, que le ministre d'ailleurs ne produit pas, est-il ou n'est-il pas du capitaine Lebrun-Renault? S'il n'est pas du capitaine Lebrun-Renault lui-même, il est sans valeur. C'est un mensonge à ajouter à tous ceux qu'a fait M. du Paty de Clan depuis le premier jour, quand il affirmait que mon mari, écrivant sous sa dictée, s'était mis à trembler, alors que la page écrite ce jour-là par mon mari ne porte aucune trace d'une émotion qui eût été cependant bien explicable, ou quand il affirmait que son crime était connu du président de la République et des ministres, alors que M. Casimir Perrier, le général Saussier, ne furent informés de son arrestation que longtemps après. Mais le capitaine Lebrun-Renault n'a jamais rien dit de tel. J'en ai pour témoin le commandant Forzinetti, dont le général Saussier pourra vous dire la loyauté, et qui a recueilli du capitaine Lebrun-Renault lui-même un démenti catégorique de votre allégation. J'en ai pour témoin M. Clisson, qui a écrit le jour même dans le Figaro le récit véridique de l'entretien du capitaine Lebrun-Renault avec mon mari. J'en ai pour témoin d'autres personnes encore qui auront, elles aussi, le courage de parler, d'affirmer la vérité, qui répéteront demain devant la justice, sous la foi du serment, les démentis que le capitaine Lebrun-Renault a constamment opposés à cette calomnie. Sous la foi du serment, devant la justice, le capitaine Lebrun-Renault confirmera lui aussi la vérité. Vous pouvez demander à M. Lebon, ministre des colonies, de vous montrer les lettres dont il ne m'envoie plus que des copies, me privant ainsi de la vue même de cette chère écriture. Lisez ces lettres, monsieur, vous n'y trouverez, dans l'affreuse agonie de ce supplice immérité, qu'un long cri de protestation, qu'une longue affirmation d'innocence, l'invincible amour de la France. Vivant ou mort, mon infortuné mari, je vous le jure, sera réhabilité. Toutes les calomnies seront dissipées, toute la vérité sera connue. Ni moi, ni nos amis, ni tous ces hommes que je connais seulement de nom, mais qui ont, eux, le souci de la justice, ne désarmeront jusque-là. Je vous prie d'agréer, monsieur le député, l'expression de mes sentiments distingués. Signé Lucie Dreyfus.
Troisième et dernière partie du deuxième appendice.
Échange de correspondance entre le capitaine Dreyfus et maître Demange. Première lettre envoyée par maître Demange à Madame Dreyfus, le 20 janvier 1898.
Madame, j'ai l'honneur de vous communiquer les lettres que votre malheureux mari m'a écrites il y a 3 ans, la veille et le soir même de sa dégradation. C'est bien la preuve qu'il n'a jamais cessé de protester de son innocence. Votre, respectueusement, Edgar Demange.
Le 3 janvier 1895, jeudi midi. Lettre d'Alfred Dreyfus à Maître Demange.
Cher maître, je viens d'être prévenu que je subirai demain l'affront le plus sanglant qui puisse être fait à un soldat. Je m'y attendais, je m'y étais préparé. Le coup a cependant été terrible. Malgré tout, jusqu'au dernier moment, j'espérais qu'un hasard providentiel amènerait la découverte du véritable coupable.
Je marcherai à ce supplice épouvantable, pire que la mort, la tête haute, sans rougir. Vous dire que mon cœur ne sera pas affreusement torturé quand on m'arrachera les insignes de l'honneur que j'ai acquis à la sueur de mon front, ça serait mentir. J'aurais certes mille fois préféré la mort. Mais vous m'avez indiqué mon devoir, cher maître, et je ne puis m'y soustraire, quelles que soient les tortures qui m'attendent. Vous m'avez inculqué l'espoir, vous m'avez pénétré de ce sentiment qu'un innocent ne peut rester éternellement condamné. Vous m'avez donné la foi. Merci encore, cher maître, de tout ce que vous avez fait pour un innocent. Demain, je serai transféré à la santé. Mon bonheur serait grand si vous pouviez m'y apporter la consolation de votre parole chaude et éloquente et ranimer mon cœur brisé. Je compte toujours sur vous, sur toute ma famille, pour déchiffrer cet épouvantable mystère. Partout où j'irai, votre souvenir me suivra. Ce sera l'étoile d'où j'attendrai mon bonheur, c'est-à-dire ma réhabilitation pleine et entière. Agréez, cher maître, l'expression de ma respectueuse sympathie. Signé A. Dreyfus. J'apprends à l'instant que la dégradation n'aura lieu que samedi. Je vous envoie quand même cette lettre. Prison de la santé, samedi. Cher maître, j'ai tenu la promesse que je vous avais faite. Innocent, j'ai affronté le martyre le plus épouvantable qu'on puisse infliger à un soldat. J'ai senti autour de moi le mépris de la foule. J'ai souffert la torture la plus terrible qu'on puisse s'imaginer. Et que j'eusse été plus heureux dans la tombe. Tout serait fini, je n'entendrais plus parler de rien. Ce serait le calme, l'oubli de toutes mes souffrances. Mais hélas, le devoir ne me le permet pas, comme vous me l'avez si bien montré. Je suis obligé de vivre, je suis obligé de me laisser encore martyriser pendant de longues semaines pour arriver à la découverte de la vérité, à la réhabilitation de mon nom. Hélas, quand tout cela sera-t-il fini? Quand serai-je de nouveau heureux? Enfin, je compte sur vous, cher maître. Je tremble encore au souvenir de tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, à toutes les souffrances qui m'attendent encore. Soutenez-moi, cher maître, de votre parole chaude et éloquente. Faites que ce martyr ait une fin, qu'on m'envoie le plus vite possible là-bas où j'attendrai patiemment, en compagnie de ma femme, que l'on fasse la lumière sur cette lugubre affaire et qu'on me rende mon honneur. Pour le moment, c'est la seule grâce que je sollicite. Si l'on a des doutes, si l'on croit à mon innocence, je ne demande qu'une seule chose pour le moment. C'est de l'air, c'est la société de ma femme, et alors j'attendrai que tous ceux qui m'aiment aient déchiffré cette lugubre affaire. Mais qu'on fasse le plus vite possible, car je commence à être à bout de résistance. C'est vraiment trop tragique, trop cruel d'être innocent et d'être condamné pour un crime aussi épouvantable. Pardon de ce style décousu, je n'ai pas encore mes idées à moi, je suis profondément abattu physiquement et moralement. Mon cœur a trop saigné aujourd'hui. Pour Dieu donc, cher maître, qu'on abrège mon supplice immérité. Pendant ce temps, vous chercherez, et j'en ai la foi, la conviction intime, vous trouverez. Croyez-moi toujours, votre dévoué et malheureux, A. Dreyfus. Et voici maintenant la fin des lettres d'un innocent, telles qu'on peut les voir exposées sur un document Wikisource. À toutes celles ou ceux qui n'auraient écouté ne serait-ce qu'une toute petite partie de ces lettres, je vous remercie. Portez-vous tous bien.